Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que c'est ça.
Radio X.
Ouais, ce soir à 21h, Donald Trump va s'adresser à la nation américaine. On est un peu impacté dans tout ça, hein?
Ouais.
Si je pense que au niveau mondial, si vous avez vu les prix du pétrole monter, là, ça baisse tranquillement le pétrole aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va annoncer qu'il se retire de l'Iran? J'ai hâte de voir tout ça. Notre chroniqueur, il est là.
Voici le food. Professeur Sylvain Charlebois.
Sylvain, comment ça va?
Hey, ça va bien. C'est la première fois que je l'entends comme il faut.
Bon, oui,
le thème. Bravo, les boys. Bon travail.
C'est notre producteur, Frank.
Il fallait t'honorer, ouais. Là. Il fallait faire ça.
Merci, grand. Frank. Merci à toi. Je me sens chez nous, chez vous.
All right. Là, t'es où, là? Tu nous parles de où aujourd'hui? T'étais à...
Je parle... Si on veut parler de taxes de carbone, c'est quoi le meilleur endroit au Canada pour en jaser?
En Alberta.
Je suis à Calgary.
Wow!
Alberta!
Ah, okay. Ben voilà.
C'est bon.
Et oui. Bon. Et puis, écoute, hier soir, j'avais un souper avec des gens d'affaires, là, et puis... Disons que c'était pas un thème super populaire, hein, la taxe de carbone. Là.
Hey, c'est pas... Comment ils vont, nos Albertans? Là? Comment
ben
ils...
là, premièrement, ils sont de bonne humeur parce que tu sais que le déficit albertain pour cette année est situé à 9 milliards de dollars.
Prévu,
mais ça, c'est avec un baril de pétrole à 60 dollars US.
Là, il est à 100 piastres.
Et là, maintenant, le baril de pétrole est à 100 $
Fait qu'il y a plus trop de problèmes.
Tu peux se croire que le déficit de 9 milliards va disparaître complètement. Et là, on s'attend à un surplus de 8,5 milliards.
Wow!
Si le baril de pétrole se maintient à peu près à 100 $ US, le baril, fait que tu peux-tu croire qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler d'autres personnes pour dire on va avoir beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser dans les prochains mois?
Oui, mais c'est bon pour le Québec, ouais. Hein, parce que nous autres, on a de la péréquation aussi par rapport à l'Alberta, le baril de pétrole. Donc, quand il y a des rentrées d'argent d'Alberta, il y a une redistribution de la richesse partout, là.
Ah oui, puis comme en Nouvelle-Écosse, nous, on a la péréquation, on reçoit le plus, c'est nous qui recevons le plus d'argent par capita au Canada, beaucoup plus qu'au Québec. Fait que c'est sûr que tout le monde bénéficie. Là. Fait que c'est sûr qu'on parle du coût de la vie, puis c'est certain que le diesel, la gasoline, tout ça... Faire en sorte que ça coûte plus cher de distribuer quoi que ce soit. Mais en bout de ligne, pour les coffres publics, là, ça apprécie de bonnes nouvelles. T'sais, on parle beaucoup que le pétrole est mort, on veut passer à d'autres choses. On parle d'électrification du réseau et tout ça, c'est bien beau, là. Mais entre-temps, le pétrole joue un très, très grand rôle. Il finance beaucoup nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, etc.
Ouais. Là, taxe carbone, 1er avril, ça monte. Là, y a des impacts partout,
ouais.
partout.
Oh, écoute, c'est inquiétant. Même ce matin, j'écoutais les nouvelles en Angleterre. On annonce que le taux d'inflation alimentaire en Angleterre pourrait atteindre le 9 % d'ici deux mois. Eux, ils ont atteint le 19 % avec l'Ukraine en 2023. Fait que c'était pratiquement le double de nous. Mais moi, je serais pas surpris de voir notre taux d'inflation augmenter en raison de ce qui se passe. Si tu discutes avec des transporteurs, là, il y a des frais supplémentaires pour transporter quoi que ce soit, incluant la bouffe actuellement. C'est sûr que le Québec, à mon avis, va être moins touché parce que vous avez quand même un réseau intensif. Vous n'êtes pas loin du port de Montréal. Il y a un port à Québec. Le port à Québec n'est pas aussi actif, là, mais quand même, il y a un réseau très, très intéressant. Puis il y a une densité de population. Tandis que dans l'Est, là, en Atlantique, là, ça va nous ramasser. Ça va coûter très cher parce que 95 % de la nourriture qu'on mange n'est pas produite dans la région. C'est beaucoup, beaucoup de bouffe qui est transportée sur des roues. Puis dès qu'on fait ça, ça coûte cher. Mais il y a aussi le secteur manufacturier qui va en arracher aussi. Ça va coûter plus cher produire quoi que ce soit. Et avec des marges très minces, messieurs, tu sais, ça pardonne pas, là.
Ouais.
C'est ça la différence entre la nourriture puis d'autres secteurs.
Oui, mais là, la taxe carbone, elle remonte là, au Canada, 1er avril. Il y a la bourse carbone aussi au Québec. Et le ministre des Finances, Éric Girard, avait dit aux Québécois... Récemment, là, il y a 1 % de plus au Québec que l'inflation là, au Québec que le reste du pays, parce que c'est notre taxe carbone du Québec, notamment, qui fait en sorte qu'on paye plus cher tout. Donc, quand tout ça monte, ça a un impact sur tous les prix partout, là.
Oui, c'est ça. Le Québec, le hic avec le Québec, c'est que vous avez un marché du carbone qui est en lien avec la Californie. C'est un système qui est un peu différent.
Ouais.
Tu sais, je l'haïs pas, le système. En passant, là, y a beaucoup de monde qui pense que je suis contre la taxe de carbone ou je suis contre la carbonisation du marché. Pas du tout. En fait, je trouve que c'est une bonne chose qu'on fasse quelque chose. Mais j'ai toujours des réticences au niveau de l'agroalimentaire parce que, tu sais, on se nourrit, puis j'ai toujours cru que taxer de la nourriture, peu importe comment, puis de pourquoi,
exact.
On peut compromettre la sécurité alimentaire d'une population. Fait que j'ai toujours un malaise par rapport à la taxation du carbone pour ce qui est des agriculteurs. Puis en passant au Québec, tu sais, l'Union des producteurs agricoles vont vous dire depuis... quelques années, les producteurs agricoles, les gens qui produisent notre nourriture ont payé pour plus de 500 millions de taxes sur le carbone. Là. Ça, c'est de l'argent qui ne va pas dans les champs. Ce n'est pas de l'argent qui va vers les familles. C'est de l'argent qui va à Québec et à Ottawa. Là.
Mais eux doivent servir de bord puis monter le prix. Donc, l'argent est pris à quelque part dans les poches des citoyens. Là.
C'est ça, exactement. Fait que tu sais, faut... Puis en 2018, lorsque Stephen Guilbeault a décidé de mettre de l'avant sa politique de la taxation sur le carbone, ils n'ont jamais évalué l'influence de cette politique-là sur la sécurité alimentaire du Canada. Puis j'ai trouvé ça tellement irresponsable comme approche. Là. Nous, on a fait des études par la suite parce qu'on a été financés. On a eu la chance d'avoir un philanthrope qui nous a supportés. Fait qu'on a fait des études sur 2 ans là-dessus pour réaliser vraiment que la taxe...
Oh, je pense qu'on vient de le perdre.
De bon?
Ouais, je pense
ça allait pas trop bien.
La connexion, je vais essayer de l'appeler.
Oui, essaie de l'appeler. On va essayer de recommuniquer avec lui parce que là, on avait une communication qui, on sentait, là, s'en allait au diable. Mais ce qu'il disait essentiellement, Sylvain Charlebois, c'est que quand le gouvernement fédéral a décidé d'aller sur des taxes carbone, puis le gouvernement du Québec aussi, bien, ils n'ont pas calculé l'impact qu'il allait avoir sur la nourriture, notamment sur nos agriculteurs. Puis là, l'UPA dit on a payé 500 millions de taxes carbone au gouvernement du Québec, notamment, puis à Ottawa. Et ça a un impact dans votre portefeuille parce que quand vous achetez Québec, les prix sont plus élevés. Il faut aller chercher ces taxes-là. On les refile dans le prix, on les refile dans la consommation. Fait que c'est ça qu'il disait aussi. Fait que, regarde, c'est vraiment capoté de voir que ces politiciens-là n'ont pas été capables de voir l'impact sur toute la chaîne de votre portefeuille, la chaîne... des intrants, donc voilà. Il est là, notre Sylvain.
Je ne sais pas pourquoi la connexion a lâché complètement, mais il est là au téléphone.
Voilà, Sylvain, donc c'est ça que j'expliquais, l'UPA, et tout, là, l'impact sur la filière alimentaire au Québec, ben ça a un impact dans le portefeuille des Québécois aussi.
C'est ça, c'est sûr que on veut augmenter la résilience de la filière, mais c'est pas en faisant ça qu'on va le faire, là, c'est ça.
Exactement. Bon, on a pas mal de sujets. Tu dis le PDG de Mars sur le conseil du manufacturier Ozempic.
Hey, t'as-tu vu ça? Fait que Mars est un grand producteur de confiserie, bien sûr, de collation, la barre Mars que tout le monde connaît, tu sais. J'ai vu ça cette semaine, là. On a annoncé que le PDG de cette compagnie-là, qui en arrache, bien sûr, en raison du phénomène GLP-1, la compagnie qui produit le médicament Ozempic invite le PDG à faire partie du conseil d'administration comme observateur. Il n'y aura pas un vote, là, mais comme observateur. Puis j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que, dans le fond, le PDG de Mars s'en va il s'en va rejoindre l'ennemi numéro un du secteur,
ben
là,
oui.
Finalement.
Ben oui.
C'est un peu ça qui se passe. Puis j'ai trouvé ça vraiment curieux comme annonce de voir ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça par le passé, là, qu'une compagnie est invitée à assister à des meetings de conseil d'administration d'une autre compagnie qui est pratiquement une compétition, là, finalement.
Lui, il va essayer de comprendre. Je ne sais pas, il veut... C'est bizarre, hein? Effectivement. Comment on explique ça? On ne l'a pas trop dit non plus, hein? Pourquoi on justifiait cette venue-là du PDG de Mars sur Ozempic.
Puis on ne sait pas qui a approché qui. Moi, j'ai l'impression que le phénomène GLP-1 là, frappe vraiment très fort la filière agroalimentaire, puis ils ne savent pas trop comment gérer ça.
Oui. Bien, regarde, l'autre sujet, on l'a d'en face, McCormick et Unilever qui fusionnent.
Ouais.
C'est pas lié. Tu sais, l'histoire du Ozempic puis tout ça, là.
Oui, c'est un facteur. Ça, c'est clair.
Clairement.
C'est un facteur. Oh, absolument. C'est un deal intéressant. C'est 44 milliards de dollars. Donc, il faut rappeler aux gens que McCormick a plusieurs produits non alimentaires, bien sûr, mais ils sont surtout dans la restauration. Il y a plein de produits qu'on utilise en restauration qui sont fabriqués par McCormick, mais c'est pas la marque que vous allez voir, là. C'est d'autres marques. Là. On supporte toutes sortes de marques. Dans le cas de Unilever, ben, c'est une compagnie qui est très... qui est internationalisé comparé à McCormick. McCormick, beaucoup de ses activités, c'est en Amérique du Nord. Enfin, moi, j'ai trouvé que la transaction, c'est une transaction qui dans le fond, fait du sens. Il y a de belles synergies. Mais, tu sais, je me posais la question, Pierre, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, les consommateurs?
C'est les allées du centre à l'épicerie, là. Hein? C'est un peu ça, là. Ça veut dire que les prix vont peut-être monter?
Il va y avoir moins de joueurs. Il va y avoir un joueur de moins, effectivement. Donc, s'il y a un joueur de moins, bien, normalement, il y a moins de compétition. Et quand il y a moins de compétition, les prix augmentent. Fait que c'est sûr que c'est un bon deal pour Unilever et McCormick qui fusionnent pour créer une division agroalimentaire. Mais en même temps, pour nous tous, on voit encore là plus de consolidation dans le marché. Et puis, les prix pourraient augmenter, là, malheureusement.
Ouais, puis il y a Kraft Heinz aussi qui a mis sur la glace son projet comme divisé en deux, là, ces divisions.
De divorce,
là. Ouais, exactement, le scission, le session. Mais ça va peut-être revenir, là.
C'est possible, mais là, tu sais, vois-tu, pour ce qui est du Canada, de Kraft Heinz Canada, ben là, on a vu que l'entreprise s'engageait et était pour investir 250 millions de dollars dans l'usine de Montréal qui en avait besoin. Là. Ils ont besoin de place. Moi, j'ai visité cette usine-là, puis écoute, c'est vraiment assez impressionnant là, de voir le cheese whiz faire le ketchup, le beurre d'arachide, toutes les sauces qu'ils font aussi. C'est très automatisé, mais la bâtisse comme telle manquait d'amour un peu, puis il n'y avait plus de place pour de l'expansion. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils veulent investir davantage. Là, tant mieux, c'est une bonne chose, mais l'action est en baisse, puis les ventes sont pas faciles. Fait que c'est sûr que on pourrait revoir justement. Berkshire Hathaway qui avait décidé de cesser parce qu'eux sont propriétaires de 27% de l'entreprise avec Warren Buffett. Puis moi, je pense que Warren Buffett a contre la division de Kraft et de Heinz. On a simplement, quand ils ont entendu les rumeurs, ils ont dit « Oh, attendez un instant, je pense qu'on peut faire quelque chose d'autre avec ça. » Puis c'est là que l'annonce à Montréal est arrivée.
En tout cas, dans la dernière semaine, Kraft a fait des spéciaux là, dans les épiceries au Québec. Là, puis, je veux dire, ça sortait. Là.
Passant, Unilever, c'est le propriétaire de la mayonnaise Hellmann's.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est là que moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des synergies. Puis moi, je pense à votre bonne mayonnaise à Québec, là, Mag, qui est faite à Saint-Augustin. Là.
Très bonne, d'ailleurs. J'en ai racheté la semaine dernière.
Non, ben écoute, si j'avais le choix, j'achèterais juste du Mag. Là.
Ouais, intéressant.
Oh, ouais, très bonne.
Très
bonne.
Mais il y a une offensive des allées du centre là, hein, pour essayer de séduire plus de clients. Là. Les clients sont allés peut-être vers les génériques ou les marques, les sans-marques des dernières années.
Mais tu sais, pour venir à Mag, c'est une belle histoire parce que, tu sais, dans le domaine des condiments, là, aller chercher 1% des parts de marché, c'est énorme. C'est une grosse victoire.
Ils l'ont fait.
Puis je ne dirai pas le pourcentage, là, j'ai pas l'air de le dire, mais c'est beaucoup plus qu'un pour cent, là. On s'entend, là. C'est incroyable. L'histoire de Mag, là, c'est vraiment un miracle.
Ouais, mais ce que tu nous dis aussi, c'est que les compagnies, les gros conglomérats, les prochaines années, ça va être tough, là, avec notamment les médicaments Ozempic et autres. Ça fait disparaître les revenus, là.
Oui, il y a ça, puis il y a aussi les fameux les étiquettes avec la loupe, là, sodium, gras et puis sucre. Je vous les avais vus dans les épiceries, j'imagine, la loupe là, de santé. Vous autres, là, je suis juste curieux, toi puis Nick, là, êtes-vous influencé par cette étiquette-là?
Ben moi, je commence à regarder plus. de plus en plus. Je regarde les compositions. Là, si je vois qu'il y a beaucoup de produits, là, je peux débarquer. Là.
Ouais, non, je te dirais pas jusqu'à maintenant. Pas influencé.
Okay. Toi, c'est le goût?
Oui.
Écoute, on vient de sonder les Canadiens. 63 % des consommateurs au Canada avouent avoir été influencés dans leurs achats en raison de la lutte de Santé Canada.
Donc, il y a une
C'est beaucoup plus que je pensais.
Ouais. Là, je pense que les gens regardent de plus en plus que dans la production là, de produits d'aller du centre.
Oui.
Ouais.
De plus en plus. L'Iran. Bon, là, il semble avoir peut-être un accalmie, je sais pas, là, on va voir.
Ouais, ben, je sais que vous en avez parlé déjà dans votre émission, là, vite, écoute, on souhaite une fin, là, parce que, comme je te dis, à chaque 25 % d'augmentation du baril de pétrole à partir de 55 $, qui était le 7 janvier, ça, c'est le baseline pour le baril de pétrole, parce que c'est à partir du 7 janvier où ce qu'on voyait que les marchés commençaient à être plus nerveux avec l'Iran. C'est arrivé le 28 février. Mais à chaque 25 % de plus, le pétrole à 55 % c'est 150 à 200 $ de plus qu'on doit payer au magasin en raison de l'Iran. Fait que là, on est rendu à 100 $, là, c'est à peu près... L'Iran va nous coûter... à peu près entre 600 et 800 $ à l'épicerie là, pour cette année. Là.
De plus?
Une famille de quatre. Là.
De plus?
De plus.
Et puis ça, c'est avec ce qu'on voit là.
Ouais.
Si le baril descend vite, on va...
Ben, si le baril, si on règle ça, on est le 1er avril aujourd'hui. Je ne sais pas si président Trump nous prépare un poisson d'avril pour ce soir. Là. Ouais. Ben, si ça ne l'est pas, si on annonce un cessez-le-feu, c'est sûr que les marchés vont se calmer puis ça va être une très bonne nouvelle.
Au moment où je te parle, Trump vient de mettre sur son réseau social, il dit que l'Iran nous a demandé un cessez-le-feu, on est en train d'étudier la question et on va vous revenir. D'après moi, on a le point de presse de ce soir à 9h, ils vont peut-être nous annoncer qu'il y a un cessez-le-feu.
La question est-ce que c'est vrai que l'Iran a offert un cessez-le-feu?
Oui, c'est tout ça.
Avec M. Trump, on ne sait jamais.
On ne sait plus. Il y a beaucoup de bruit sur la ligne. Sylvain Charlebois, toujours un plaisir, le Food Professor. Ton podcast aussi, hein, qui roule.
Podcast Food Professor, nouvelle émission demain matin.
Salut, merci.
Salut.
Bye.
Voilà. Ouais, c'est ça. L'Iran va nous coûter cher.
Ah, oh, assurément.
Là, il y a des impacts. C'est pour ça que Trump veut reculer. Là. Il veut sortir de là au plus vite. D'après moi, il regarde ce qui s'en vient comme inflation. Ça peut être un choc pour pas mal de monde, pas juste le peuple américain, le peuple canadien aussi. Voilà. Bon, après la pause, on ouvre les lignes.
88-670-9098.
Où tu veux aller?
Pierre, tantôt, tu parlais d'un article de la presse, Mémoire est bonne, qui...
Devoir.
Du Devoir, oui, qui mentionne que on va devoir choisir. En fait, on est au bord du gouffre. On est au pied du mur. On va devoir choisir entre l'austérité au Québec ou bien augmenter les impôts.
Ben ça, c'est le message de gens là, qui travaillent à l'Institut du Québec, notamment. Là.
On a le choix. C'est l'austérité. On réduit la taille de l'État, nos services, ou on paye plus d'impôts. Moi, là, payer plus d'impôts, Pierre, je suis à côté. Là. Je peux pas en payer plus. À un moment donné, là, ça va faire.
Oui, puis les municipalités aussi qui vont venir chercher de l'argent dans tes poches.
C'est ça. À un moment donné, moi...
Tout le monde.
Tu sais, l'austérité, je pense qu'elle a le dos large, mais il faut faire le ménage... dans notre sphère publique et dans nos services. On n'a pas le choix.
Toi, quand tu as moins d'argent qui rentre ou quand tu payes plus, comme là, tu le sens, là, qu'est-ce que tu fais?
Je réduis mes dépenses.
Tu fais un exercice.
Je fais des choix.
Tu fais un exercice très, très rigoureux. Tu regardes partout. Tu vas fouiller partout.
Tu sais, je dis à ma blonde, c'est pas vrai qu'on va aller au IKEA. On n'a pas d'argent à mettre du gaz. Les affaires de même.
OK, puis là, elle dit, ben là...
Elle dit, on va y aller pareil.
On va y aller pareil.
C'est pas toi qui décides.
Là, t'achètes des petites chandelles. Au lieu d'acheter des grosses affaires, des petites chandelles à 2 $.
Non, mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que l'État, il va falloir que les citoyens du Québec commencent à faire des choix. Là.
Moi, je pense qu'on n'est pas là encore.
Donc, vous choisissez quoi? L'austérité ou la hausse d'impôts?
La hausse d'impôts. Et où, les deux?
Ben, peut-être qu'on n'aura pas le choix, puis ça, c'est terrible. Si on veut conserver exactement notre beau modèle comme il est là, je pense que les deux s'en viennent.
Est-ce que le modèle fonctionne aussi? C'est l'autre chose. Hein?
Erreur. Voilà.
On revient après la pause.
Couture.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.